France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Mélanie Chalandon, Sacha Mattei et Christelle Anger, réalisé par Sam Bakiast. Et à la technique ce matin, c'est Marie-Claire Oumabadi. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux pressions politiques subies par les fonctionnaires partout dans le monde. Nous évoquions hier les ambitions de Donald Trump, réduire d'un tiers le budget fédéral, notamment en supprimant des milliers de postes. Aujourd'hui, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne, aussi peu crédibles qu'elle aux yeux des Cisjordaniens.
Ça augmente. Ça fait longtemps qu'ils nous contrôlent. Prenez les taxes par exemple. Ils nous prélèvent des taxes, mais où est-ce qu'elles vont ? On ne sait pas. Ça ne sert à rien parce qu'il y a de la corruption. Regardez l'état des routes.
Les projets, ils se les distribuent entre eux. Les restaurants, c'est eux qui les possèdent. Tout ce qu'il y a dans ce pays, c'est à eux.
L'autorité palestinienne est capable de maintenir l'ordre, d'assurer la sécurité et de contrôler les groupes armés en Cisjordanie. Elle pourrait donc être en mesure de jouer ce rôle dans la bande de Gaza.
Mais nous sommes confrontés à une autorité bornée, autoritaire, pas à une autorité qui nous protège. C'est l'autorité des monstres qui tuent pendant la nuit, qui tabassent pendant la nuit. Et le jour, ils se présentent comme des mains innocentes.
L'autorité des monstres, dit ici la mère Denise Arbanat, battue à mort il y a 4 ans par des membres du renseignement de l'autorité palestinienne. Ceux-ci ont été arrêtés pour leurs crimes, mais depuis libérés par la justice militaire. Le passage à tabac de cet homme de 43 ans qui n'avait de cesse de dénoncer la corruption du Fatah, le parti au pouvoir, avait provoqué de grandes manifestations en Cisjordanie, pour une fois non pas contre Israël, mais contre un régime qui ne laisse pas ses opposants s'exprimer, qui ne privilégie que ses proches, qui maintient Mahmoud Abbas au pouvoir sans élection et qui désormais tire aussi sur les siens quand il les soupçonne d'être de près ou de loin affilié à un groupe islamiste au nom de sa coopération avec l'État hébreu. Être fonctionnaire en Cisjordanie est-il le seul moyen de subsister ? À quoi s'emploient ces 180 000 employés présents pour moins de 3 millions d'habitants ? Quelle allégeance est requise envers l'autorité palestinienne, cette même autorité palestinienne qui se propose aujourd'hui pour administrer Gaza, 17 ans après son éviction par le Hamas. Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Xavier Guignard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes politiste, spécialiste de la Palestine, chercheur associé au Middle East Council et à Noria Research. Vous êtes auteur de « Comprendre la Palestine » qui paraîtra le 30 janvier aux éditions Les Arènes avec les très belles illustrations d'Alizé Depin. Nous sommes également en ligne depuis Jérusalem avec Taher Labadi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes économiste, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, l'IFPO. Alors d'abord, pour vraiment replacer cette discussion dans le cadre de notre série sur les fonctionnaires, vraiment à hauteur d'homme, presque Xavier Guignard, quand l'autorité palestinienne est mise en place par les accords d'Oslo, est-ce que ces fonctionnaires sont censés être aussi provisoires qu'elle ? On rappelle, les accords d'Oslo, c'est 93 ou 94, ou est-ce qu'ils sont au contraire là pour durer, ces fonctionnaires ?
Alors il y a deux lectures des accords d'Oslo, à savoir est-ce que c'est l'antichambre de la construction de l'État palestinien ou est-ce que c'est un pis-aller justement pour privilégier l'autonomie à la souveraineté. Mais dans tous les cas, les fonctionnaires qui sont recrutés, soit qui sont déjà présents par des administrations locales qui existaient, soit qui reviennent dans les bagages de l'OLP qui étaient en exil jusqu'alors, soit qui sont recrutés sur place, n'ont pas le même mandat que l'autorité. Ils ne sont pas là uniquement pour 5 ans comme l'autorité, ils sont là pour créer de l'institution qui doit être pérennisée, et ça sera le cas d'ailleurs, non pas dans un projet étatique et de souveraineté, mais en fait dans la permanence de cette solution assez baroque et unique qui est une autorité intérimaire, prolongée, autonome mais pas souveraine.
intérimaire, puisqu'au départ, elle n'était censée n'exister que 5 ans, jusqu'au 4 mai 1999, c'est très précis. Et finalement, cette période de transition qui devait permettre au parti d'avancer sur les négociations sur le statut final n'a pas débouché sur un accord, et ce gouvernement autonome est devenu pérenne. Vous parlez de ceux qui sont, à l'époque, rentrent en Palestine, aussi pour construire ce début d'État ou pas, Xavier Guinard? Est-ce que vous avez rencontré parmi les fonctionnaires de l'autorité palestinienne des gens qui, par exemple, se destinaient à une époque peut-être plus à la lutte armée et qui se disent « je vais plutôt me mettre au service d'une administration et au service d'un futur État ».
Alors, il y a une composante armée de l'OLP en exil, l'Armée de Libération de la Palestine, mais qui est organisée en bataillons qui sont en réalité cantonnés dans les pays limitrophes et qui vont peu massivement revenir. Ceux qui vont pouvoir revenir dans les bagages de l'OLP à la suite du retour d'Arafat à Gaza, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais c'est absolument rien en quantité par rapport au nombre de réfugiés qui n'ont pas l'exercice de leur droit à retour, vont participer de cette administration. Ils occupaient des postes parfois similaires en exil dans l'administration de l'OLP. On le rappelle, l'OLP qui naît dans le milieu des années 60 va pratiquement administrer les camps de réfugiés, notamment au Liban, puis va se retrouver en exil à Tunis après l'offensive israélienne contre Beyrouth en 82. Mais de l'exil va organiser, comme elle le peut, l'administration de la population palestinienne, alors principalement en exil. Elle n'a pas d'empreinte dans les territoires. Mais quand elle revient, quand l'OLP revient en Palestine, ce sont quelques dizaines de milliers de futurs fonctionnaires, et d'ailleurs qui ne vont pas sans friction avec ce qu'on appelle les Palestiniens de l'intérieur, qui voient arriver ce corps de l'OLP qu'ils connaissent bien, auquel ils se réfèrent, mais c'est une pratique politique avec laquelle il faut s'ajuster entre les recrutements locaux et puis le favoritisme qui peut être donné à ceux qui reviennent de l'extérieur.
Alors les fonctionnaires palestiniens n'ont pas de territoire national, ils ont un siège néanmoins, la Moukata à Ramallah. Tahir Labadi, c'est là que travaillent les cadres de l'administration aux côtés de Mahmoud Abbas?
Là, et puis dans les différents ministères qui se sont établis dans Ramallah, donc Ramallah fait office de capitale transitoire également depuis maintenant 30 ans quasiment.
Et les hauts fonctionnaires qui sont aux côtés de Mahmoud Abbas, qui travaillent dans cette administration, est-ce que ce sont toujours les mêmes depuis son élection en 2005 ou les fonctionnaires ont changé d'année en année, Xavier Guignard?
Non, mais les fonctionnaires ont des déroulés de carrière, quasi similaires à d'autres administrations. Il y a un turnover, il y a peut-être quelque chose sur lequel Terre sera beaucoup plus précis que moi, mais il y a eu tout l'effet, le double effet du renforcement autoritaire de l'autorité dont on peut parler, et puis celui de la libéralisation. Donc, sous la pression des bailleurs et des réformes, il y a eu un délestement d'une partie des activités de l'autorité au profit du secteur public privé, et donc il y a une réorganisation des corps de fonctionnaires.
Un tournant libéral, Tahir Labadi, c'est quoi, 2008-2009? Comment ça s'est manifesté? Dans quel service public?
À peu près dans les années 2000, autour des années 2008, avec la nomination d'un premier ministre, Salam Fayyad, donc qui était issu des sphères de la Banque mondiale et du FMI. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une espèce de renouvellement des hauts fonctionnaires qui s'opèrent. Là où auparavant, comme le décrivait Xavier, en fait, on avait cette ancienne garde qui venait de l'exil. Avec les accords d'Oslo, on va commencer à intégrer de plus en plus des figures qui viennent du secteur privé ou du secteur des banques ou des organisations internationales. Ça, on parle au niveau des hauts fonctionnaires, dans les ministères, aussi au poste de ministre, en fait. Et c'est souvent, c'est un renouvellement qui a une vocation à être un affichage, en fait. Donc c'est un renouvellement qui se fait beaucoup dans les postes visibles, si vous voulez, et beaucoup moins, on va dire, à l'intérieur des administrations.
Pourquoi un affichage, Tahir Labadi? C'est pour donner des gages, à l'époque, à ce qu'on appelle un peu vite la communauté internationale qui observe la façon dont les accords d'Oslo sont mis en place?
Tout à fait. En fait, il faut savoir que donc on a une autorité palestinienne qui est très largement dépendante de financements qui lui viennent de l'étranger. C'est sa principale manne financière. On pourra revenir là-dessus. Mais donc, qui se doit constamment de faire bonne figure auprès de cette communauté internationale, auprès de ces bailleurs de fonds. Et à partir de 2008, il y a un changement qui se fait dans les exigences de cette communauté internationale, qui demande à ce que de nouvelles figures soient affichées, soient nommées, et de compter plus sur des personnes compétentes. Il y a à l'époque quelque chose qui est... les personnalités politiques sont décriées, celles qui ont appartenu à l'ancienne garde, et on va essayer de faire peau neuve, en faisant intervenir des personnes du secteur privé, et encore une fois des banques, etc. Et donc c'est notamment le cas de Salam Fayyad, mais il y a d'autres figures comme ça qui, depuis Salam Fayyad, sont nommées premier ministre et au gouvernement. Qui sont ce type de profil.
Donc une administration plus de technocrates pour dépolitiser en quelque sorte aussi cette administration qui compte aujourd'hui, Xavier Guignard, entre 170 000 et 180 000 fonctionnaires pour 2 950 000 Palestiniens de Cisjordanie. Comment est-ce qu'ils sont répartis entre les différents services publics ?
Alors, juste avant de répondre à votre question, parce que vous avez employé le très bon terme, je pense, de dépolitisation, le tournant dont parle Taher, il vient aussi à la suite de la fin de la seconde intifada et puis de la transition du pouvoir entre Yasser Arafat, qui est décédé fin 2004, et Mahmoud Abbas. Et la double injonction, elle est effectivement celle de la libéralisation, de faire comme si on était un État. Ça dépolitise complètement la question de pourquoi il n'y a pas de souveraineté palestinienne. Ça la place uniquement sur le curseur de les fonctionnaires ou les administrations ne répondent pas aux exigences internationales en termes de gouvernance, de transparence, en oubliant la toile de fond qui est la permanence de la colonisation et de l'occupation israélienne. Et puis l'autre injonction, c'est celle du contrôle des armes et du contrôle des gens en armes pour ne pas retomber dans ce qu'on a pu traverser pendant la seconde intifada. Et ça va être un des vrais efforts de Mahmoud Abbas, y compris sur le recrutement des fonctionnaires liés à l'appareil de sécurité. Pour revenir sur votre question, il y a une hypertrophie. Alors, j'ai pas un diagramme absolument parfait en tête, mais il y a une hypertrophie des services de sécurité à l'intérieur de la répartition des fonctionnaires de l'autorité palestinienne, qui traduit très exactement le mandat initial de cette autorité. Et je pense qu'on va pouvoir se faire écho avec Taher Labadi sur cette question, parce que c'est l'organisation de la dépendance économique et puis la coopération sécuritaire. Et donc le recrutement des fonctionnaires palestiniens répond, en tout cas sur le pilier sécuritaire, à cette injonction, c'est-à-dire d'être une force supplétive de l'administration militaire israélienne.
Sur la zone A, quand on parle de zone de ABC en Cisjordanie, on ne parle pas des catégories d'agents publics, mais vrament de la catégorisation, enfin des zones en fonction de leurs différents statuts. Donc là, la coopération sécuritaire, c'est la zone A.
Principalement, la coopération sécuritaire concerne l'ensemble du territoire, mais son déploiement va être plus facile, effectivement, pour les forces palestiniennes en zone A. Mais la coopération sécuritaire se matérialise par l'échange de renseignements, dans un sens comme dans l'autre. Et il y a une codépendance qui va se créer. Codépendance parce que l'administration israélienne n'est jamais mieux servie que par un service policier, militaire et de renseignement palestinien sur sa propre population, donc pour se prémunir de toute forme de lutte palestinienne à l'encontre de l'occupation israélienne. Et puis à l'inverse, on a une autorité palestinienne qui de plus en plus prend un virage autoritaire, et donc sa légitimité est contestée et fait face à des mouvements sociaux palestiniens. Et pour se protéger, elle est aussi dépendante du renseignement israélien sur ses oppositions. Et donc l'organisation de cette codépendance à travers l'échange de renseignements, à travers la facilitation des accès israéliens en Cisjordanie, par exemple, Taher mentionnait la capitale de facto, Ramallah. Quand les Israéliens opèrent dans Ramallah, les forces de sécurité palestiniennes sont cantonnées dans leur commissariat. Et puis, dans d'autres zones, ça va être au contraire, sur injonction israélienne, des forces de sécurité palestiniennes qui vont aller arrêter des Palestiniens.
Donc vous disiez une hypertrophie du secteur de la sécurité, ça représente combien de fonctionnaires à peu près sur les 180 000 qui travaillent en Cisjordanie ?
À peu près un tiers.
À peu près un tiers, donc ça fait deux tiers quand même pour les autres services publics. Comment est-ce qu'ils sont recrutés ? Est-ce qu'il y a une forme de concours ? Est-ce qu'il y a une logique partisane pour les échelons un peu plus bas que les hauts fonctionnaires dont vous parliez tout à l'heure, Taher Labadi ? On parlait d'une dépolitisation au niveau des grandes figures de l'administration palestinienne. Sur les sur les fonctionnaires, les autres, la grande majorité, est-ce qu'ils sont aujourd'hui cooptés ? Est-ce qu'il faut être membre du Fatah pour intégrer l'autorité palestinienne ?
Oui, alors, il faut, mais c'est aussi un Fatah on va dire, qui est une nouvelle donne. En fait, aujourd'hui, le Fatah en Cisjordanie s'est transformé en un parti de pouvoir. La question de la culture, si vous voulez, militante du Fatah a beaucoup reculé. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une logique d'un parti clientéliste où, effectivement, pour pouvoir accéder à certaines fonctions publiques, il faut avoir fait, être membre de ce parti. Ce que je voulais ajouter comme élément peut-être à ce que proposait Xavier un peu plus tôt, c'est que en termes de budget, par exemple, la sécurité aujourd'hui c'est un peu plus de 20% du budget de l'autorité palestinienne. Donc on est à un budget qui est plus élevé que celui de la santé ou celui de l'éducation. C'est la première ligne de dépenses de l'autorité palestinienne. Donc ça en dit aussi long, ça en dit aussi beaucoup sur l'importance de ce secteur qu'a pris ce secteur aujourd'hui pour l'autorité palestinienne. Et j'ai envie de dire que si on reprend un peu aussi cette question de l'économie politique de l'autorité palestinienne, on a quelques données qui sont criantes, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que cette autorité palestinienne, finalement, elle a pris autant d'importance dans le quotidien palestinien, dans la vie économique palestinienne, parce que d'un autre côté, on a fait face à une érosion de l'appareil productif palestinien, c'est-à-dire que les secteurs économiques se sont
effondrés,
ont vu leur place et leur rôle régresser au cours de ces 30 dernières années. Et entre-temps, l'autorité palestinienne disposait de la manne financière qui lui permettait de recruter de plus en plus de fonctionnaires. Ça a été le moyen pour cette autorité d'assurer sa base et sa légitimité. Aujourd'hui, on est à un Palestinien sur cinq qui travaille en Cisjordanie, qui travaille pour l'autorité palestinienne. Donc c'est vraiment quelque chose de conséquent, de massif dans la société palestinienne. Je dis ça pour donner un peu une idée de ce que ça représente aujourd'hui et de ce qui fait que cette autorité palestinienne, elle occupe une place si importante, malgré le fait que ses prérogatives sont très limitées sur le territoire. En fait, dans les zones où elle opère, c'est un acteur prépondérant.
L'autorité palestinienne, principal employeur du territoire, les salaires versés aux fonctionnaires représentent 25 à 33% des revenus directs des Cisjordaniens, sauf qu'ils sont de plus en plus grignotés. Parfois, ils ne sont pas versés, ce qui occasionne régulièrement des grèves contre la gestion de cet argent.
Ces policiers, ce sont nos frères, nos pères, nos cousins. On dirait que tout le monde a peur de nous. Moi, je les connais, je n'ai pas peur. Nous ne représentons pas de danger. On réclame simplement nos droits. On veut discuter avec quelqu'un qui pourra nous donner raison.
Cela fait 20 ans que j'enseigne et je gagne à peine 600 euros par mois. Bien sûr que ce n'est pas assez. Et pour ceux qui ont des enfants, c'est vraiment insuffisant. La plupart du temps, ils ont au moins 7 personnes à charge.
Des manifestations au printemps 2023, des témoignages recueillis à l'époque par Nicolas Ropper de Radio France. Tahir El-Abadi, la question de ces salaires qui de plus en plus sont gelés, qui de plus en plus accusent des retards. D'abord, sur quelle grille de salaire ils s'échelonnent, ces revenus des fonctionnaires? Est-ce qu'il y a une forme de transparence?
Alors, oui, il y a une transparence des salaires. Là, j'ai pas la grille en tête. Pour ce qui est des fonctionnaires selon leur statut, leur rang, la question du gel de ces salaires, en fait, elle vient des difficultés financières que rencontre l'autorité palestinienne de plus en plus ces dernières années. Donc, je disais que une part conséquente du budget de l'autorité palestinienne, les recettes en fait provenaient de l'aide internationale qui est versée donc par les bailleurs de fonds. Ça a été vrai et ça a atteint cette donnée-là a été vraie jusque vraiment dans les années 2008-2010 où l'aide internationale pouvait compter jusqu'à 40 à 50% du budget de l'autorité palestinienne. Et c'était une manne financière importante, je disais, qui a permis à l'autorité palestinienne de recruter des fonctionnaires en masse. Mais cette aide internationale a beaucoup régressé ces dernières années. Et ce qui a pris le relais en termes de recettes, d'importance, le gros des recettes, en fait, provient des taxes qui sont collectées par Israël sur la consommation palestinienne. puisque l'autorité palestinienne n'a pas le contrôle des frontières, et donc c'est Israël qui collecte ces taxes, mais qui doit les reverser à l'autorité palestinienne. Et en théorie, voilà, de façon automatique, mensuellement, ces taxes sont reversées. Sauf que c'est un outil de chantage important, et ça l'est devenu de plus en plus ces dernières années pour Israël, se saisit de cette taxe du prétexte du reversement de cette taxe pour imposer à l'autorité palestinienne certains chantages et ponctionne régulièrement le reversement. Ce qui fait que l'autorité palestinienne donc, se retrouve en difficulté et on a assisté là depuis. C'était déjà le cas depuis 2021-2022, mais ça s'est encore accéléré depuis la guerre, depuis octobre 2023. Une autorité palestinienne qui ne parvient pas à payer ses fonctionnaires chaque mois, sinon en ponctionnant une partie. Donc là, depuis octobre 2023, on avait des salaires qui étaient versés à 60, maximum 70%, donc qui étaient ponctionnés à 30 à 40%. Et qui était versé régulièrement, voilà, avec des semaines de retard à chaque fois.
Xavier Guignard, c'est vrai que depuis le 7 octobre 2023 et les attaques terroristes du Hamas, le gouvernement israélien bloque les fonds. Mais alors, est-ce qu'il bloque les fonds envers la Cisjordanie ou envers Gaza? Et la Cisjordanie ne veut pas avoir à priver Gaza, parce que c'est l'autorité palestinienne qui verse aussi les salaires aux fonctionnaires de Gaza. Donc comment le processus s'est-il enclenché pour que, in fine, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne accusent des grands, grands retards dans la réception de leur paix?
Alors, il y a une partie des fonctionnaires de Gaza qui, effectivement, sont encore payés par l'autorité depuis son départ en 2007 et l'édification d'un gouvernement politiquement dominé par le Hamas, mais qui a lui-même construit sa propre administration. Ça peut être un tout autre sujet de comprendre cette imbrication, mais je crois que ce que pointe Taher, c'est l'utilisation punitive de ce non-reversement, qui préexistait la guerre de Gaza et qui se poursuit. Israël collecte, pour le dire très facilement, la TVA dans les échanges aux frontières et soit ponctionne sur cet argent collecté ce qu'il considère être des retards de paiement de l'autorité pour l'eau ou l'électricité qui sont là où l'autorité est dépendante d'un achat de compagnies israéliennes, soit simplement pour faire pression politique sur le gouvernement. Et ceux qui en pâtissent sont les fonctionnaires de la Cisjordanie. À l'exception notable des fonctionnaires liés aux services de sécurité qui, eux, ont leur salaire majoritairement garanti depuis octobre dernier. Certains secteurs ont même vu une augmentation des salaires parce qu'ils sont véritablement la colonne vertébrale du pouvoir actuellement en place. C'est tous les autres fonctionnaires qui, ça a été dit, subissent et des retards et des coupes de salaire dans un contexte, on l'entendait tout à l'heure dans le témoignage que vous avez diffusé, où le nombre de personnes dépendantes dans un foyer de ce salaire augmente sur le simple fait que l'appareil productif palestinien est mis sous contrainte et que le bassin d'emploi des Palestiniens en Israël a été réduit à quasiment néant après octobre 2023. Donc dans ce contexte de crise, des plus petits salaires doivent nourrir plus de personnes.
Alors il n'y a pas que le fait qu'Israël ait tari la ressource en amont, puisque depuis le 7 octobre 2023, en effet, il y a beaucoup d'argent qui ne parvient plus dans les caisses de l'autorité palestinienne, ces taxes qui représentent quand même 63% d'un budget de 14 milliards d'euros, mais il y a aussi des incohérences totales dans la façon dont cet argent, l'argent qu'a l'autorité palestinienne, qui prélève aussi ses propres taxes, je ne dis pas de bêtises, Xavier Guignard, le répartit. Comment expliquer, par exemple, que parmi les mieux payés de ces fonctionnaires figurent les employés de Palestinian Airlines? C'est l'ONG palestinienne Amman qui avait publié ces chiffres, ça date un peu maintenant, 2019. Les employés de Palestinian Airlines seraient les mieux payés par le ministère des Transports, alors qu'il n'y a plus d'aéroport opérationnel sur le territoire palestinien depuis 2001. Taher Labadi, quelle part dans cette gabegie, quelle part prend à la fois la corruption et la mauvaise gestion de l'autorité palestinienne?
Alors, elle est importante, cette part, ça, c'est certain. Il y a de plus en plus, et c'est aussi quelque chose qui s'est accéléré ces dernières années, un problème dans la gestion des fonds, avec plusieurs affaires qui ont éclaté et qui font régulièrement l'actualité et qui provoquent des protestations de la part des Palestiniens. Donc c'est vrai, il y a quelque chose qui est un phénomène de plus en plus constaté, c'est la corruption et la mauvaise gestion. au sein de l'autorité palestinienne. Et en fait, ça s'est accéléré, si vous voulez. Moi, je le lis quand même à un contexte politique. Là encore, c'est que on a une autorité palestinienne qui se maintient, qui a fait un virage vraiment autoritaire, et ça va de pair avec cette corruption qui gagne du terrain à partir du moment où il y a un gouvernement qui s'est imposé en Cisjordanie par décret présidentiel au moment où donc le Hamas avait gagné les élections législatives en 2006, un gouvernement qui avait été formé. Et qui n'a pas été reconnu ni par Israël ni par la communauté internationale, qui a mené à une crise interne au sein de l'autorité palestinienne, et donc cette division entre la Cisjordanie et Gaza. Et ce qui s'est passé en Cisjordanie, c'est que, donc, là on ne parle pas de la bande de Gaza, mais si on observe la Cisjordanie, c'est qu'on a donc à la fois un virage qui se fait libéral, d'un gouvernement qui va essayer de faire bonne figure auprès de la communauté internationale pour continuer à percevoir l'aide, mais en même temps un mode de gestion en interne qui est de plus en plus autoritaire pour faire taire toute opposition à l'autorité palestinienne et aux accords d'Oslo. Quelque chose qui va finalement encourager la pratique de corruption, parce que il va falloir mettre à la tête des différentes administrations des personnes qui vont être plus conciliantes avec cette autorité nouvelle 2.0, si j'ai envie de dire, de cette nouvelle forme.
Terre Labadi, s'il s'agit vraiment de défendre d'abord des salaires, donc les moyens de subsister au quotidien, est-ce que, contre toutes ces malversations, les fonctionnaires de l'autorité palestinienne ont des élections professionnelles, des syndicats dans la fonction publique, enfin de la fonction publique, je ne sais pas si ce terme est employé en Cisjordanie, mais est-ce qu'en tout cas ils peuvent se défendre comme ils l'avaient réclamé, des élections professionnelles? Ces professeurs qu'on entendait tout à l'heure lors de cette grève du printemps 2023, on avait demandé des représentants. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui existe et qui est en cours de réflexion?
Non, il y avait un mouvement syndical assez important en Palestine par le passé, mais c'est aussi quelque chose qui a été cassé de plus en plus ces dernières années, là encore sur qui est en lien avec le virage autoritaire de l'autorité palestinienne. Il y a eu une cooptation des syndicats en place. Et une interdiction de créer d'autres syndicats qui puissent être plus représentatifs. Et donc on a un phénomène un peu étonnant de syndicats qui sont les syndicats reconnus par l'autorité palestinienne et qui sont en fait des syndicats cooptés pour la plupart, et des syndicats qui sont plus indépendants mais en fait beaucoup plus fragiles et qui...
On vous a perdu, Terre Labadi, des syndicats beaucoup plus fragiles. Il se trouve qu'à chaque fois que des élections professionnelles sont demandées à l'autorité palestinienne, celle-ci rétorque que le Hamas pourrait s'y retrouver en position de force et que personne n'y a intérêt. Ça a été le cas lors des élections étudiantes et cette fois-ci pas professionnelles. Les dernières élections à l'université de Bir Zeit, c'est une liste proche du Hamas qui l'a emporté il y a plusieurs mois maintenant. Donc un système qui fonctionne mal, mais qu'il est interdit de critiquer. L'opposant Nizat Baran, en 2021, en avait été battu à mort. France 24 avait rencontré son frère.
Au milieu du Ramadan, il y a eu des tirs contre la maison de Nizar. Cela a fait suite à une campagne de diffamation contre lui sur les réseaux sociaux. Tout ça est arrivé après l'envoi d'une lettre à l'Union européenne pour leur demander d'arrêter de financer l'autorité palestinienne. Et Nizar était l'un des signataires. Il postait des photomontages avec la tête de Nizar sur des soldats israéliens. Pendant 2 jours, il y a eu des dizaines et des dizaines d'images comme ça. Le 3e jour, ils ont ouvert le feu sur sa maison. Et ensuite, Nizar s'est réfugié chez notre oncle au sud. Là, on a reçu plusieurs coups de fil anonymes disant « On va tuer Nizar, il faut exécuter Nizar », ce genre d'appel.
Alors, qui avait tué Nizar Banat, Xavier Guignard? Est-ce que ce sont des fonctionnaires de l'autorité palestinienne qui sont venus à son domicile et qui l'ont frappé à mort?
Absolument, c'est et le contexte dans lequel ça se déroule, c'est celui de l'été 2021. Donc après de grandes manifestations qui font suite à l'annulation des élections législatives et éventuellement présidentielles, décision prise par Mahmoud Abbas et qui a provoqué un divorce ou qui a accentué le divorce entre la population de Cisjordanie, cette autorité gouvernement de facto. Il y avait une conciliation dont on trouvait parfois des modalités entre cette politique institutionnelle et puis la politique dans la rue oppositionnelle. Et là, ce changement de direction, ce retour aux urnes qui était une exigence très forte, qui a été complètement balayé par la direction politique, a provoqué réellement, a marqué cet affrontement. On est d'ailleurs dans cette période, ça fait un peu plus de 3 ans, mais je pense que la période qui s'est ouverte après 2021 n'est pas encore refermée, de crise absolue de la légitimité. Nizar Banat était une des figures de cette critique intellectuelle, politique, militante de l'autorité palestinienne, qui ne représente pas l'image que l'autorité aimerait donner de ses opposants, c'est-à-dire de cellules islamistes armées, mais qui témoigne au contraire de...
Qui existe par ailleurs,
mais les oppositions à l'autorité sont plurielles, et Nizar en est une des facettes. Et sa mort par les coups des services de sécurité est emblématique de ce tournant qu'a pris ce pouvoir. Un pouvoir où il y a plus de parlement depuis 2007, il n'y a plus d'autorité indépendante de la justice. Donc la corruption dont vous faisiez part tout à l'heure, ou le clientélisme, est favorisé aussi par ce renfermement du pouvoir autour de la figure présidentielle et de son cercle proche, puisqu'il n'y a plus de contre-pouvoir, y compris, comme l'a rappelé Tahir Labadi, les corps intermédiaires que peuvent être les syndicats sont marginalisés pour éviter que toute élection professionnelle ou toute démarche politique puisse être le lieu d'une contestation qui est interdite dans les urnes et dans la rue.
Est-ce que ce qui est en train de se passer là depuis plusieurs jours maintenant, même si une forme de trêve a été décidée vendredi dernier, mais cette offensive de l'autorité palestinienne contre des groupes armés palestiniens à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, dans le camp de réfugiés, pour en reprendre le contrôle, ce qui a occasionné énormément de violences. Il y a eu par ailleurs toute une opération de censure de l'autorité palestinienne qui a suspendu la diffusion de la chaîne Qatari Al Jazeera, accusée d'incitation à la sédition. Une jeune étudiante en journalisme est morte le 28 décembre dernier, tuée d'une balle dans la tête, et ses proches parlent d'un sniper des forces de sécurité de l'autorité palestinienne dans un quartier pourtant bien éclairé, loin de tout combat. Est-ce que là, dans les opérations militaires que mène l'autorité palestinienne ces dernières semaines, on est dans le cadre stricto sensu de l'accord de coopération avec l'État hébreu ?
La coopération sécuritaire, c'est pas une ligne fixe, c'est un mode opératoire. Ce qui est certain, c'est que l'autorité se trouve prise au piège de cette injonction. C'est-à-dire qu'à la fois son existence dépend de sa capacité de répondre à la demande israélienne de faire une partie du travail à sa place, et de l'autre côté, la crise de légitimité que traverse le pouvoir rend impératif le contrôle de sa population par les armes. Et donc, cette double injonction fait que la survie de l'autorité palestinienne, elle est de plus en plus liée à sa capacité à contrôler par les armes sa population. Alors là, en l'espèce, l'offensive qu'elle mène dans le nord de la Cisjordanie, sur lequel je pense que Tahir aura plus de choses à dire que moi, mais n'est pas, à proprement parler, le combat d'une autorité palestinienne dominée par le Fatah contre des cellules islamistes. Il y a une pluralité des appartenances idéologiques des jeunes palestiniens que l'on voit prendre les armes ou trouver une façon de s'opposer à la fois à l'occupation palestinienne et puis à cette présence uniquement violente de l'autorité, et qui a réémergé d'ailleurs après 2021.
On l'avait vu aussi en 2017, la mort de Bassel Al-Arraj, qui avait été arrêté et torturé par l'autorité palestinienne, puis tué par l'armée israélienne. C'était un jeune qui n'était affilié à aucune organisation, en tout cas qu'il avait beaucoup dit depuis, même si ensuite tous les textes posthumes qu'on a découverts après ont pu poser plein de questions. En tout cas, cette mort-là avait suscité énormément de colère. Tahir Labadi, sur les opérations de l'autorité palestinienne en ce moment sur le nord de la Cisjordanie, est-ce que des fonctionnaires, des agents qui sont envoyés là par l'autorité palestinienne peuvent parfois émettre des réserves, des doutes, voire tout simplement déserter pour ne pas faire partie de ces opérations-là ?
Oui, effectivement. Redire qu'en fait, c'est vrai qu'une des formes de cette coopération sécuritaire, ces derniers mois, ça a été beaucoup... d'aller arrêter des militants palestiniens dans les villes, les villages, les camps de réfugiés pour le compte de l'armée israélienne. Et souvent, ce qui arrivait, c'est qu'une fois que ces militants étaient relâchés par l'autorité palestinienne, ils étaient automatiquement repris par l'armée israélienne. Et donc, il y a cette forme de coopération qui est de plus en plus décriée par la rue palestinienne, qui provoque une colère de plus en plus grande. Et c'est très vrai dans le nord de la Cisjordanie, et donc notamment dans la région de Jénine et autour du camp de réfugiés de Jénine. Et donc, on a eu... Ces dernières semaines, vous avez pu observer donc cet affrontement qui s'est passé autour du camp. On a entendu parler de centaines de fonctionnaires de forces de la sécurité qui ont refusé de se rendre et de participer à cette campagne, et la plupart ont été arrêtés et donc sont actuellement encore emprisonnés pour avoir refusé de servir cette campagne. C'est quelque chose qui prend des allures de guerre civile, hein. Faut bien avoir conscience, encore une fois, si on prend l'importance de ce que représente le Fatah en Cisjordanie et ce que représente l'autorité palestinienne, on est vraiment dans quelque chose qui concerne chaque famille. Et en même temps, une colère de plus en plus grande qui aussi pénètre chaque famille. Donc c'est quelque chose de très... Il y a quelque chose de fratricide, si vous voulez, dans l'affrontement qui est en train de se jouer à Jénine. Et on a eu des décisions de personnes qui ne se sont pas rendues ou qui ont démissionné aussi, qui ont parfois démissionné sur la place publique, c'est-à-dire en déchirant leur contrat ou en montrant qu'ils abandonnaient leur poste à l'autorité palestinienne, enfin dans les forces de sécurité, pour ne pas servir cette campagne-là, qui clairement répond à une injonction. C'est comme ça que c'est perçu de manière très claire. C'est une injonction du moment de l'armée israélienne qui, elle, régulièrement aussi essaye de pénétrer ce camp de réfugiés à Jénine et qui rencontre des difficultés et qui, du coup, il y a une espèce de complémentarité des rôles qui se joue, qui déplaît beaucoup aujourd'hui dans la rue palestinienne.
Avec dans ces camps aussi des jeunes issus du Hamas et du djihad islamique, mais qui se mêlent à d'autres beaucoup moins engagés dans la lutte armée, et ces opposants aussi à Mahmoud Abbas, dont vous avez rappelé tous les deux quel était le sort qui les attendait quand ils exprimaient trop fort leur contestation. Mahmoud Abbas se maintient au pouvoir alors qu'il a été élu en 2005 et pour un mandat de 4 ans, qu'il n'y a jamais eu de nouvelles élections depuis, donc il n'a jamais été aussi peu crédible, et pourtant il se propose aujourd'hui pour administrer ou pour gouverner Gaza. Xavier Guinard, que peut-on en dire ? Vous étiez hier dans Question du soir chez Quentin Lafay pour parler de Gaza. Aujourd'hui, quand il dit par exemple qu'il va envoyer ou qu'il a envoyé des équipes des ministères de la Santé, de l'Éducation, de l'Eau et de l'Électricité à Gaza pour acheminer l'aide humanitaire, quels sont réellement ses moyens, alors même qu'il ne peut répondre à tous les besoins de la population de Cisjordanie ?
Bon, Mahmoud Abbas est peu crédible quand il parle de Gaza pour le peu d'intérêt qu'il y a porté depuis 2006, pour la faiblesse de sa prise de parole depuis octobre 2023. Néanmoins, la formation d'un nouveau gouvernement qui répond à très peu des critiques, mais à quelques injonctions, notamment une plus forte représentativité de figures de Gaza, a pu laisser croire qu'il serait intéressé, à titre personnel et à la tête de leurs administrations, dans cette phase de, alors si ce n'est de reconstruction, en tout cas du jour d'après l'arrêt des bombardements. Il y a probablement de très bonnes volontés, y compris au sein des hauts fonctionnaires palestiniens, voire au sein du gouvernement, mais qui n'est pas, à mon sens, l'expression du projet de Mahmoud Abbas, qui lui vit la séparation en deux entités depuis 2007 comme un affront, et imagine son retour à Gaza non pas comme un symbole de l'union palestinienne tant demandé dans la rue, la réconciliation palestinienne, mais plutôt comme un écrasement de son opposant. Et cette volonté volonté de transformer le partenariat en reddition, à mon sens, rend très précaire sa capacité de se projeter, d'autant qu'Israël s'oppose absolument au retour de l'autorité à Gaza, puisque ça pourrait être un pas justement vers la réunification palestinienne.
En attendant, il dit Mahmoud Abbas qu'il envoie des services de santé. Là aussi, il est assez peu crédible, étant donné qu'en Cisjordanie, beaucoup de Palestiniens n'ont pas accès aux soins. On en parle avec, après cette autrice-compositrice palestinienne, Racha Nahas.
تشرب نبيد تدخن سيجارة تحكي سياسة الجسد للأرض انت ما روح للسماء في طريق في طريق مش سهل بين نفسي وبين أنا
Shanas, autrice, compositrice, interprète palestinienne, qui est née, qui a grandi à Haïfa et qui vit aujourd'hui à Berlin. Cette chanson Nbid est extraite d'un album de 2023. Vous écoutez Culture Monde, notre série sur les fonctionnaires, les 180 000 fonctionnaires de l'autorité palestinienne, une administration décrédibilisée auprès des Cisjordaniens, corruption et manque de moyens pour fournir notamment des services de santé.
France Culture. Culture Monde, Julie Gacon.
Car suite aux accords d'Oslo, l'autorité palestinienne a été chargée non seulement de maintenir la sécurité, mais aussi de fournir les services de santé à la population palestinienne. Bonjour Samira Jarrar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorante en anthropologie médicale à l'université d'Aix-Marseille. D'abord, qu'est-ce qu'ont changé les accords d'Oslo dans l'organisation des soins? Qu'est-ce qui préexistait à ces accords et qu'est-ce qui a été mis en place progressivement?
Oui, alors en fait, comme vous l'avez dit, les accords de Oslo, la responsabilité de la santé des Palestiniens, de Cisjordanie et de Gaza passe de l'administration israélienne à cette nouvelle créée autorité palestinienne. Mais en fait, avant, du coup, de 1967 jusqu'à en fait, les accords d'Oslo, les années 90, c'était Israël qui gérait la santé. Et en fait, l'autorité palestinienne est héritière aussi de ces systèmes de santé qui n'étaient pas investis par Israël. Et du coup, il y avait déjà un manque en ce qui concerne les services médicaux. Avec les accords de Oslo, c'est l'autorité palestinienne qui prend en charge cela. En fait, Israël se décharge aussi de tous ces coûts de l'administration de la population palestinienne. Pendant les années de l'occupation directe, du coup, il y a aussi de expérience populaire qui émerge auprès de la population palestinienne, comme les comités populaires dans les années 70-80, qui, voilà, ils sont constitués vraiment dans une vision de libération avec un ethos anticolonial et qui s'occupent aussi de fournir des services de santé pour la population palestinienne. Mmh. Toutes ces expériences sont rendues illégales, criminalisées par Israël. Et voilà. Et après, il y a, dans les années 90, la constitution de cette autorité palestinienne. Et du coup, on passe aussi dans une logique de, voilà, de lutte anticoloniale, de libération, vers plutôt un processus, une logique de construction étatique.
Étatique avec
sans ses... un véritable...
ouais. Avec toutes ces expériences collectives. Oui, pardon, ces expériences collectives de santé dont vous nous parliez, Samira Jarrah, qui sont mises, entre guillemets, sous la coupe de l'autorité palestinienne juste après les accords d'Oslo, ou qui deviennent pour certaines des ONG, parce qu'il y a à la fois un secteur public de la santé, un secteur privé qui semble assez important aussi en Cisjordanie, et les ONG. Est-ce que cette offre de soins est pensée en complémentarité les unes des autres?
Oui, alors en fait, exactement comme vous l'avez dit, il y a quatre majeurs fournisseurs de services sanitaires, les publics avec le ministère de la Santé, l'UNRWA, qui est cet organisme
des Nations Unies,
de l'ONU, voilà, et les ONG et les fournisseurs privés. En fait, il y a mauvaise communication et coordination entre ces différents fournisseurs de services sanitaires qui en fait affectent aussi l'accès aux soins. Il y a un gaspillage d'énergie et parfois d'argent. Du coup, c'est le ministère de la Santé offre la majorité des services de santé primaires, de base. Mais il s'appuie beaucoup sur les fournisseurs privés, soit en fait sur des organismes externes comme le secteur privé ou les hôpitaux à l'étranger, pour ce qui concerne les services un peu plus spécialisés, c'est-à-dire ces services qui demandent une expertise médicale plus spécialisée ou un équipement technologique plus avancé.
Samira Jarrah, juste parce que il se trouve que vous avez particulièrement travaillé sur un secteur qui est la transplantation d'organes. En Cisjordanie, il n'y a pas de programme solide de transplantation d'organes. Aucun n'a été mis en œuvre. Donc, pour beaucoup, les Cisjordaniens qui ont besoin d'avoir d'avoir une transplantation d'organes doivent sortir de Cisjordanie.
Exactement, oui. Voilà, les transplantations, c'est un exemple de ces services médicaux spécialisés qui ne sont pas présents dans les secteurs, pas beaucoup, en fait, dans les secteurs gouvernementaux, publics. Et du coup, les ministères de la Santé doivent acheter ces services auprès des hôpitaux à l'étranger, par exemple en Turquie, en Jordanie, mais aussi en Israël. Et voilà, on a calculé qu'entre 2011 et 2015, par exemple, Israël a gagné un revenu de 45 millions d'euros en tourisme médical des Palestiniens qui vont se soigner dans ces hôpitaux. Mmh. C'est un cas typique de comment les colonialismes et le néolibéralisme en fait marchent entre eux. La santé des Palestiniens de Cisjordanie devient un marché captif qui est à l'avantage de la croissance de l'économie coloniale palestinienne.
Parce que est-ce que l'autorité palestinienne, elle, essaye au moins de répondre aux besoins de construire de nouveaux hôpitaux? On annonce parfois la construction d'un hôpital, que deviennent ces annonces?
Alors, malheureusement, il y a des cas d'appropriation illégale, illégitime, non transparente de l'argent public. Moi, j'étais tombée sur un cas en particulier, c'était le cas de l'hôpital Khaled Hassan. C'est un hôpital qui devait être construit en 2016 pour soigner les patients oncologiques, du coup le cancer. Voilà. Et en fait, il y avait eu aussi une collecte d'argent public et des taxes, etc. Il y a eu l'annonce de la construction de cet hôpital, le président Mahmoud Abbas qui allait poser la première pierre. Mais voilà, encore aujourd'hui, dans les terrains où l'hôpital devait être construit, il y a encore un terrain vide. Et du coup, les contribuables palestiniens se demandent mais où cet argent est allé. Et voilà, ça c'est un cas de mauvaise gestion ou de non-transparence voilà, de défense de l'argent public.
Il y a ce manque de personnel dans les hôpitaux aussi, et vous racontez tous ces patients dont les proches ont dû apprendre à s'occuper eux-mêmes de plusieurs opérations médicales, comme le fait par exemple de relancer un appareil de dialyse quand il s'arrête de façon impromptue, parce que de toute façon les quelques infirmières qui sont sur place sont déjà très occupées et qu'il faut faire sans elles. Est-ce que l'autorité palestinienne a la main, entre guillemets, sur le recrutement des infirmières, des médecins?
Alors, bah, comme on l'a dit tout à l'heure avec les autres intervenants, l'autorité palestinienne se trouve aussi dans un, en fait, dans des difficultés économiques. Et cela, c'est à cause du fait que Israël contrôle une partie du budget.
Et pas seulement, comme on disait, mais pas seulement. Voilà, il y a aussi cette corruption et les détournements dont on parlait.
Oui, exactement. Du coup, voilà, en fait, il y a tout un manque. Quelquefois, l'autorité palestinienne, le ministère de la Santé n'arrive pas à acheter aussi des médicaments de base. Mais voilà, à côté de ça, il y a aussi peut-être un manque de volonté d'investir dans le secteur public. Et cela va à l'avantage du secteur privé qui, par contre, investit sur les services tertiaires spécialisés. Et du coup, en fait, les ministères de la Santé transfèrent souvent des patients vers les secteurs publics. Du coup, il y a un flux important d'argent qui passe du public au privé. Et voilà, en fait, c'est dénoncé par... en fait, il y a la suspicion qu'il y ait des conflits d'intérêts entre des politiciens de l'autorité palestinienne et les gros patrons des hôpitaux privés.
Et un tout petit mot, Samira Jarrar, pour conclure. Les patients, cette fois, les Palestiniens, est-ce qu'ils sont égaux dans les chances qu'ils ont d'être soignés et bien soignés? Dans quelle mesure joue là aussi le clientélisme, le réseau?
Alors il y a aussi des formes de clientélisme, un peu de népotisme, de favoritisme, c'est-à-dire si j'ai parlé avec plusieurs patients qui disent que si on a un contact à l'intérieur de la hiérarchie de l'autorité palestinienne, on aura plus facilement accès à certains types de soins, par exemple ce transfert vers les hôpitaux privés ou à l'étranger. Et voilà, du coup, souvent les capitales sociales de chacun et de chacune facilitent l'accès aux soins. Et voilà, donc là, ça c'est un peu la forme quotidienne de corruption, entre guillemets.
Merci Samira Jarrar, vous donnez dans vos travaux des exemples très précis, des témoignages que vous avez pu recueillir dans vos travaux. Je rappelle que vous êtes doctorante en anthropologie médicale à l'université d'Aix-Marseille. Xavier Guignard, on entendait combien le privé a dû aussi prendre une certaine place en Cisjordanie pour les soins, mais autres. Comment expliquer, après tout ce que vous nous avez dit l'un et l'autre, les uns et les autres depuis le début de cette émission, que les services publics tiennent malgré tout en Cisjordanie, que le système ne se soit pas totalement effondré?
Parce que pour une partie des fonctionnaires qui l'animent, c'est un engagement qui dépasse le contrat de travail. C'est le service à la population. Et je voudrais peut-être donner un exemple en écho à ce qui a été dit sur le système de santé. Peu de temps après la seconde intifada, l'armée israélienne a mené une opération contre l'hôpital de Ramallah pour se saisir des registres des patients. Le but annoncé, c'était de répertorier à l'intérieur de ces registres toutes celles et ceux qui ont pu être prises en charge pour des fractures ou des coups, qui témoigneraient de leur engagement dans des manifestations contre l'armée israélienne. Alors déjà, ça, avec un taux d'erreur absolument incroyable, mais ça a permis des campagnes d'arrestation suite à ça. Mais au-delà, l'accès à toutes ces données de santé a favorisé aussi le chantage qui est fait à l'octroi justement des permis pour aller se faire soigner en Israël, dont parlait notre consoeur. Et derrière ça, il y a une réorganisation du système de santé et un affaiblissement de sa capacité à garder de l'archive en bonne forme.
Merci beaucoup Xavier Guignard d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre tout prochain livre, Comprendre la Palestine, paraîtra le 30 janvier aux éditions Les Arènes, avec les illustrations d'Alizé Depin. Et je remercie aussi Taher Labadi, économiste, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, qui était avec nous depuis Jérusalem. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
et après la Cisjordanie. Vous nous parlez, Catherine, de Gaza, puisqu'après des mois de déplacement, les Gazaouis reviennent chez eux et découvrent un territoire devenu invivable.
Gaza inspecte ses blessures et ses ruines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, titre le journal palestinien Al-Ayam. Le ciel est enfin devenu silencieux après des mois d'attaques israéliennes incessantes, ajoute Al Jazeera. Bombardement suite aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, rappelle le Guardian. Mais après le cessez-le-feu, les célébrations ont rapidement fait place au choc et à la tristesse, confirme le journal britannique, alors que des dizaines de milliers de Palestiniens sortent de leur tente de déplacés, explique ABC Australia, pour rejoindre ce qui reste de leur maison d'avant la guerre. Youssef, un Gazaoui de 22 ans, originaire de la ville de Betlaya, dans le nord de Gaza, confie au Guardian avoir été pris de panique face à l'horreur dans sa ville natale. C'est comme si un tremblement de terre avait frappé ma ville. Il n'y a plus de rue, plus de magasins, plus de parcs, plus de marchés ni d'hôpitaux, uniquement des décombres et des cadavres autour et en dessous, explique le Guardian. La majorité des maisons et immeubles ont effectivement été détruites ou endommagées dans l'enclave palestinienne, plus des deux tiers également des terres agricoles, rapporte Al Jazeera. Les Palestiniens doivent donc se frayer un chemin à travers les ruines, ajoute le New York Times. À Rafah et Ran Younes, deux villes du sud de la bande de Gaza, des bâtiments éventrés, d'autres totalement rasés, un enchevêtrement de béton et de barres métalliques d'où s'échappent quelques vêtements roses ou verts. C'est ce que nous montre la Deutsche Welle, vue aérienne à l'appui, le camp de réfugiés de Jabalia au nord de Gaza. Et l'une de ces zones complètement détruite alors qu'elle abritait auparavant des dizaines de milliers de personnes.
Now, returning to their homes, the scenes that meet them. Dystopian.
C'est un paysage dystopique que découvrent les Gazaouis en rentrant chez eux, explique la Deutsche Welle. Les Nations Unies estiment que plus de 60% des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits, ainsi que des centaines de milliers de maisons, des écoles et des hôpitaux ne sont plus que ruines et débris, parmi lesquels on retrouve des munitions dangereuses qui n'ont pas encore explosé et des restes humains. Le reportage de la Deutsche Welle montre alors un crâne sur un bloc de béton. Ce ne sont pas les seules images insoutenables qui émergent des décombres à Gaza. Le journal palestinien Al-Ayam affirme que des corps ont été en partie mangés par des chiens errants. Plus de 10 000 corps auraient été ainsi ensevelis, rapporte la BBC et Al Jazeera. Pas assez de bulldozers ni d'autres équipements essentiels, déplorent les secouristes, même si plus de 1 500 camions d'aide humanitaire sont entrés dans Gaza depuis dimanche.
Aux États-Unis, Catherine, Donald Trump commence son second mandat pied au plancher.
Chose promise, chose due, le républicain de 78 ans a signé hier une myriade de décrets draconiens, souligne The Hill. Lutte contre l'immigration clandestine avec l'instauration d'un état d'urgence à la frontière sud avec le Mexique, ce qui permet de mobiliser les forces armées. Et pour le New York Times, Donald Trump teste les limites de la loi avec un autre décret publié hier qui demande au gouvernement de ne plus traiter les enfants nés aux États-Unis de parents sans papiers comme des citoyens. En clair, il révoque le droit du sol, pourtant garanti par le 14e amendement de la Constitution, rappelle le New York Times et le Washington Post. La puissante organisation de défense des droits civiques, ACLU, a déjà intenté une action en justice.
Et puis le président républicain a gracié plus de 1500 personnes condamnées pour l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021.
C'est donc la quasi-totalité des émeutiers, précise The Hill. Une insulte au système judiciaire américain, s'est insurgée la démocrate Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, citée par le Time Magazine. Dans une caricature de Nicola Jennings à retrouver dans le Guardian, c'est donc un Donald Trump coiffé de cornes de bison qui prête serment pour reprendre, vous vous en souvenez peut-être, le couvre-chef de Jake Chansley, chaman autoproclamé, adhérent aux théories du complot de la nébuleuse QAnon, dont la photo avait fait la une de la presse internationale il y a 4 ans. Et puis, peine commuée en période de prison déjà purgée pour les membres des mouvements d'extrême droite Oath Keepers et Proud Boys. L'ancien chef des Proud Boys d'ailleurs, Enrique Tarrio, condamné à 22 ans de prison, a été libéré, indique CBS Miami. Sa famille attend son retour en Floride dès aujourd'hui. D'autres membres de l'extrême droite, des néo-nazis, exultent par ailleurs sur les réseaux sociaux, note le magazine Rolling Stone et Wired. Discord après qu'Elon Musk a, semble-t-il, fait un salut fasciste ou nazi, explique le journal israélien Haaretz. Après s'être frappé la poitrine avec la main droite, il a effectivement tendu le bras, doigt joint, décrivent le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung et le journal italien La Repubblica. C'était lors d'un meeting quelques heures seulement après l'investiture de Donald Trump. Alors soit Elon Musk est extrêmement maladroit, c'est un type guindé, précise The Atlantic, soit il a laissé tomber le masque, ajoute le magazine américain The Atlantic, pour qui Musk a transformé X en un site de suprémacistes blancs. Le patron de X, SpaceX et Tesla, a également multiplié ces dernières semaines les déclarations de soutien à l'AFD, le parti allemand d'extrême droite, mais aussi, rappelle La Repubblica, à la première ministre italienne Giorgia Meloni ou au parti anti-immigration britannique Reform UK. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, merci de continuer à nous écrire à l'adresse mail fcrdpi@radiofrance.com. Nous répondrons à vos questions avec un spécialiste dans la revue interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu.